Chapitre 2. Le comte de Morangy était un des plus beaux hommes de France, blond, grand, d'une figure plus imposante qu'expressive, parfaitement frisé, dandy les pieds jusqu'à la tête. Le son de sa voix était doux et velouté. Il grasseyait un peu en parlant. Il avait l'œil grand, mais sans éclat. La bouche fine et moqueuse, la main blanche comme une femme et le pied chaussé dans une perfection indicible. Aux yeux de Sir Lionel, c'était le rival le plus redoutable qu'il fût possible d'avoir à combattre. C'était un adversaire digne de lui, depuis le favori jusqu'à l'orteil. Le comte parlait français, et Lavinia répondait dans cette langue qu'elle possédait aussi bien que l'anglais. Encore un talent nouveau de Lavinia. Elle écoutait les fadeurs du beau faton rouge avec une complaisance singulière. Le comte hasarda deux ou trois phrases passionnées qui parurent à Lionel s'écarter un peu des règles du bon goût et de la convenance dramatique. Lavinia ne se fâcha point. Il n'y eut même presque pas de raillerie dans ses sourires. Elle pressait le comte de retourner au bal le premier, lui disant qu'il n'était pas convenable qu'il y rentrât avec lui. Mais il s'obstinait à vouloir la conduire jusqu'à la porte, en jurant qu'il n'entrerait qu'un quart d'heure après. Tout en parlant, il s'emparait des mains de Lady Black, qui les lui abandonnait avec une insouciance paresseuse et agaçante. La patience échappait à Sir Lionel. « Je suis bien sot, se dit-il enfin, d'assister patiemment à cette mystification quand je puis sortir. » Il marcha jusqu'au bout du balcon. Mais le balcon était fermé et au-dessous s'étendait une corniche de rochers qui ne ressemblait pas trop à un sentier. Néanmoins, Lionel se hasarda courageusement à enjamber la balustrade et à faire quelques pas sur cette corniche. Mais il fut bientôt forcé de s'arrêter. La corniche s'interrompait brusquement à l'endroit de la cataracte et un chamois eut hésité à faire un pas de plus. La lune montant sur le ciel montra en cet instant à Lionel la profondeur de l'abîme dont quelques pouces de roc le séparaient. Il fut obligé de fermer les yeux pour résister au vertige qui s'emparait de lui et de regagner avec peine le balcon. Quand il eut réussi à repasser la balustrade et qu'il vit enfin ce frêle rempart entre lui et le précipice, il se crut le plus heureux des hommes, dût-il payer l'asile qu'il atteignait au prix du triomphe de son rival. Il fallut donc se résigner à entendre les tirades sentimentales du comte de Morangy. « Madame, disait-il, c'est trop longtemps feindre avec moi. Il est impossible que vous ne sachiez pas combien je vous aime, et je vous trouve cruel de me traiter comme s'il s'agissait d'une de ces fantaisies qui naissent et meurent dans un jour. L'amour que j'ai pour vous est un sentiment de toute la vie. » Et si vous n'acceptez le vœu que je fais de vous en consacrer la mienne, vous verrez, madame, qu'un homme du monde peut perdre tout respect des convenances et les soustraire à l'empire de la froide raison. Oh, ne me réduisez pas au désespoir. Vous connaissez les effets. Vous voulez donc que je m'explique décidément, répondit Lavinia. Eh bien, je vais le faire. Savez-vous mon histoire, monsieur ? « Oui, madame, je sais tout. Je sais qu'un misérable, que je regarde comme le dernier des hommes, vous a indignement trompé et délaissé. La compassion que votre infortune m'inspire ajoute à mon enthousiasme. Il n'y a que les grandes dames qui soient condamnées à être victimes des hommes et de l'opinion. « Eh bien, monsieur, reprit Lavinia, sachez que j'ai su profiter des rudes leçons de ma destinée. Sachez qu'aujourd'hui, je suis en garde contre mon propre cœur et contre celui d'autrui. Je sais qu'il n'est pas toujours au pouvoir de l'homme de tenir ses serments et qu'il abuse aussitôt qu'il l'obtient. D'après cela, monsieur, n'espérez pas me fléchir. Si vous parlez sérieusement, voici ma réponse. Je suis invulnérable. Cette femme, tant décriée pour l'erreur de sa jeunesse, est entourée désormais d'un rempart plus solide que la vertu, la méfiance. Ah, mais c'est que vous ne m'entendez pas, madame, s'écria le comte en se jetant à ses genoux. Que je sois maudit si j'ai jamais eu la pensée de m'autoriser de vos malheurs pour espérer des sacrifices que votre fierté condamne. Êtes-vous bien sûr, en effet, de ne l'avoir vu jamais ? Dit Lavinia avec son triste sourire. Eh bien, je serai franc, dit M. de Morangy, avec un accent de vérité, où la manière du grand seigneur disparut entièrement. Peut-être l'ai-je eu avant de vous connaître, cette pensée que je repousse maintenant avec remords. Devant vous, la feinte est impossible, Lavinia. Vous subjuguez la volonté, vous anéantiriez la ruse, vous commandez la vénération. Oh, depuis que je sais ce que vous êtes, je jure que mon adoration a été digne de vous. Écoutez-moi, madame, et laissez-moi à vos pieds attendre l'arrêt de ma vie. C'est par d'indissolubles serments que je veux vous dévouer tout mon avenir. C'est un nom honorable, j'ose le croire, et une brillante fortune dont je ne suis pas vain, vous le savez, que je viens mettre à vos pieds, en même temps qu'une âme qui vous adore a un cœur qui ne bat que pour vous. Ah, c'est donc réellement un mariage que vous me proposez, dit Lady Lavinia, sans témoigner au comte une surprise injurieuse. Eh bien, monsieur, je vous remercie de cette marque d'estime et d'attachement. » Et elle lui tendit la main avec cordialité. « Dieu de bonté, elle accepte ! » s'écria le comte en couvrant cette main de baiser. « Non pas, monsieur, dit Lavinia. Je vous demande le temps de la réflexion. Hélas, mais puis-je espérer ? Je ne sais pas. Mais comptez sur ma reconnaissance. Adieu, retournez au bal, je l'exige, j'y serai dans un instant. » Le comte baisa le bord de son écharpe avec passion et sortit. Aussitôt qu'il eut refermé la porte, Lionel écarta tout à fait le rideau, s'apprêtant à recevoir de Lady Blake l'autorisation de rentrer. Mais Lady Blake était assise sur le sofa, le dos tourné à la fenêtre. Lionel vit sa figure se refléter dans la glace placée vis-à-vis d'eux. Ses yeux étaient fixés sur le parquet, son attitude morne et pensive. Plongée dans une profonde méditation, elle avait complètement oublié Lionel, et l'exclamation de surprise qui lui échappa lorsque celui-ci sauta au milieu de la chambre, fut l'aveu ingénu de cette cruelle distraction. Il était pâle de dépit, mais il se contint. « Vous conviendrez, lui dit-il, que j'ai respecté vos nouvelles affections, madame. Il m'a fallu un profond désintéressement pour m'entendre insulter à dessein, peut-être, et pour rester impassible dans ma cachette. À dessein ? » répéta Lavinia en le fixant d'un air sévère. Mais qu'osez-vous penser de moi, monsieur ? Ah, si ce sont là vos idées, sortez ! Non, 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 ce ne sont pas là mes idées, dit Lionel, en marchant vers elle et en lui prenant le bras avec agitation. Ne faites pas attention à ce que je dis. Je suis fort troublé. C'est qu'aussi vous avez bien compté sur ma raison en me faisant assister à une semblable scène. Sur votre raison, Lionel? Je ne comprends pas ce mot. Vous voulez dire que j'ai compté sur votre indifférence? Braillez-moi tant que vous voudrez. Soyez cruel, foulez-moi aux pieds, vous en avez le droit. Mais je suis bien malheureux. Il était fortement ému. Lavinia crut ou feignit de croire qu'il jouait la comédie. « Finissons-en, lui dit-elle en se levant. Vous auriez dû faire votre profit de ce que vous m'avez entendu répondre au comte de Morangy. Et pourtant l'amour de cet homme ne m'offense pas. Adieu, Lionel. Quittons-nous pour toujours, mais quittons-nous sans amertume. Voici votre portrait et vos lettres. Allons, laissez ma main et il faut que je retourne au bal. Il faut que vous retourniez danser avec M. de Morangy, n'est-ce pas ? Dit Lionel en jetant son portrait avec colère et en le broyant de son talon. Écoutez donc, dit Lavinia un peu pâle, mais calme, le comte de Morangy m'offre un rang et une haute réhabilitation dans le monde. L'alliance d'un vieux lord ne m'a jamais bien lavé de la tâche cruelle qui couvre une femme délaissée. On sait qu'un vieillard reçoit toujours plus qu'il ne donne, mais un homme jeune, riche, noble, envié, aimé des femmes, c'est différent. Cela mérite qu'on y pense, Lionel. Et je suis bien aise d'avoir jusqu'ici ménagé le comte. Je devinais depuis longtemps la loyauté de ses intentions. Ô femme, la vanité ne meurt point en vous, s'écria Lionel avec dépit lorsqu'elle fut partie. Il alla rejoindre Henri à l'hôtellerie. Celui-ci l'attendait avec impatience. « Damnation sur vous, Lionel » s'écria-t-il. « Il y a une grande heure que je vous attends sur mes étriers. Comment 2 heures pour une semblable entre vous ? Allez, allons en route. Vous me raconterez cela chemin faisant. Bonsoir, Henri. Allez-vous en dire à Miss Margaret que le traversin qui est couché à ma place dans mon lit est au plus mal. Moi, je reste. Cieux et terre, qu'entends-je ? S'écria Henri. Vous ne voulez point aller à Luchon ? Non, j'irai une autre fois. Je reste ici maintenant. Mais c'est impossible. Vous rêvez. Vous n'êtes point réconcilié avec Lady Blake ? Non, pas que je sache. Tant s'en faut. Mais je suis fatigué, j'ai le spleen, j'ai une courbature, je reste. Henri tombait des nues. Il épuisa toute son éloquence pour entraîner Lionel, mais ne pouvant y réussir, il descendit de cheval et, jetant la bride au palefrenier, « Eh bien, s'il en est ainsi, je reste aussi !» s'écria-t-il. La chose me paraît si plaisante que j'en veux être témoin jusqu'au bout. Au diable les amours de bannière et les projets de grande route. Mon digne ami Sir Lionel, Bridgemont, me donne la comédie. Je serai le spectateur assidu et palpitant de son drame. Lionel eût donné tout au monde pour se débarrasser de ce surveillant étourdi et goguenard, mais cela fut impossible. « Bien, puisque vous êtes déterminé à me suivre, lui dit-il, je vous préviens que je vais au bal. »« Au bal, au soir, oh là non, c'est un excellent remède pour le spleen et les courbatures. » Lavinia dansait avec M. de Morangy. Lionel ne l'avait jamais vu danser. Lorsqu'elle était venue en Angleterre, elle ne connaissait que le boléro et elle ne s'était jamais permis de le danser sous le ciel austère de la Grande-Bretagne. Depuis, elle avait appris nos contredanses, et elle y portait la grâce voluptueuse des Espagnols jointe à je ne sais quel reflet de pruderie anglaise qui en modérait l'essor. On montait sur les banquettes pour la voir danser. Le comte de Morangis était triomphant. Lionel était perdu dans la foule. Il y a tant de vanité dans le cœur de l'homme. Lionel souffrait amèrement de voir celle qui fut longtemps dominée et emprisonnée dans son amour, celle qui jadis n'était qu'à lui et que le monde n'eût osé venir réclamer dans ses bras, libre et fière, maintenant environnée d'hommages et trouvant dans chaque regard une vengeance ou une réparation du passé. Lorsqu'elle retourna à sa place, au moment où le comte avait une distraction, Lionel se glissa adroitement auprès d'elle et ramassa son éventail qu'elle venait de laisser tomber. Lavinia ne s'attendait point à le trouver là. Un faible cri lui échappa et son teint pâlit sensiblement. « Oh mon Dieu !» lui dit-elle, « mais je vous croyais sur la route de Bagnères. » « Ne craignez rien, madame, lui dit-il à voix basse. Je ne vous compromettrai point auprès du comte de Morangis. » Cependant, il n'y put tenir longtemps, et bientôt, il revint l'inviter à danser. Elle accepta. « Ne faudra-t-il pas aussi que j'en demande la permission à monsieur le comte de Morangis ? » lui dit-il. Le bal dura jusqu'au jour. Lady Lavinia était sûre de faire durer un bal tant qu'elle y resterait. À la ferveur du désordre qui se glisse peu à peu dans une fête à mesure que la nuit s'avance, Lionel put lui parler souvent. Cette nuit acheva de lui faire tourner la tête. Enivré par les charmes de Lady Blake, excité par la rivalité du comte, irrité par les hommages de la foule qui à chaque instant se jetait entre elle et lui, il s'acharna de tout son pouvoir à réveiller cette passion éteinte, et l'amour-propre lui fit sentir si vivement son aiguillon qu'il sortit du bal dans un état de délire inconcevable. Il essaya en vain de dormir. Henri, qui avait fait la cour à toutes les femmes et dansé toutes les contredanses, ronfla de toute sa tête. Dès qu'il fut éveillé, « Eh bien, Lionel, dit-il en se frottant les yeux, vive Dieu, mon ami, c'est une histoire piquante que votre réconciliation avec ma cousine. Car n'espérez pas me tromper, oh, je sais à présent le secret. Quand nous sommes entrés au bal, Lavinia était triste et dansait d'un air distrait. Ah, dès qu'elle vous a vu, son œil s'est animé, son front s'est éclairci. Elle était rayonnante à la valse quand vous l'enleviez comme une plume à travers la foule. Heureux Lionel ! Ah, Luchon, une belle fiancée et une belle dot, à Saint-Sauveur, une belle maîtresse et un grand triomphe. Non, laissez-moi tranquille avec vos balivernes, dit Lionel avec humeur. Henri était habillé le premier. Il sortit pour voir ce qui se passait et revint bientôt en faisant son vacarme accoutumé sur l'escalier. « Hélas, Henri, lui dit son ami, ne perdrez-vous point cette voix haletante et ce geste effaré. On dirait toujours que vous venez de lancer le lièvre et que vous prenez les gens à qui vous parlez pour des limiers découplés. » Allez, à cheval, cria Henri. Lady Lavinia Blake est à cheval. Elle part pour Cèdre avec 10 autres jeunes folles et je ne sais combien de gars de l'Uro. Le comte de Montmorency rangit en tête. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est que le comte de Montmorency en tête. Entendons-nous. Silence, clown, s'écria Lionel. À cheval, en effet, partons. La cavalcade avait pris de l'avance sur eux. La route de Gèdre est un sentier escarpé, une sorte d'escalier taillé dans le roc, côtoyant le précipice, offrant 1000 difficultés aux chevaux, mille dangers très réels aux voyageurs. Lionel lança son cheval au grand galop. Henri crut qu'il était fou, mais, pensant qu'il y allait de son honneur de ne pas rester en arrière, il s'élança sur ses traces. Leur arrivée fut un incident fantastique pour la caravane. Lavinia frémissait à la vue de ces deux esservelés, courant ainsi sur le revers d'un abîme effroyable. Quand elle reconnut Lionel et son cousin, elle devint pâle et faillit tomber de cheval. Le comte de Morangis s'en aperçut et ne la quitta plus du regard. Il était jaloux. C'était un aiguillon de plus pour Lionel. Tout le long de la journée, il disputa le moindre regard de Lavinia avec obstination. La difficulté de lui parler, l'agitation de la course, les émotions que faisait naître le sublime spectacle des lieux qu'il parcourait, la résistance adroite et toujours aimable de Lady Blake, son habileté à guider son cheval, son courage, sa grâce, l'expression toujours poétique et toujours naturelle de ses sensations, tout acheva d'exalter Sir Lionel. Ce fut une journée bien fatigante pour cette pauvre femme obsédée de deux amants, entre lesquels elle voulait tenir la balance égale. Aussi accueillait-elle avec reconnaissance son joyeux cousin et ses grosses folies lorsqu'il venait caracoler entre elle et ses adorateurs. À l'entrée de la nuit, le ciel se couvrit de nuages. Un orage sérieux s'annonçait. La cavalcade doubla le pas. Mais elle était encore à plus d'une lieue de Saint-Sauveur lorsque la tempête éclata. L'obscurité devint complète. Les chevaux s'effrayèrent. Celui du comte de Morangis l'emporta au loin. La petite troupe se débanda et il fallut tous les efforts des guides qui l'escortaient à pied pour empêcher que des accidents sérieux ne vinssent terminer tristement un jour si gaiement commencé. Lionel, perdu dans d'affreuses ténèbres, forcé de marcher le long du rocher en tirant son cheval par la bride, de peur de se jeter avec lui dans le précipice, était dominé par une inquiétude bien plus vive. Il avait perdu Lavinia malgré tous ses efforts, et il la cherchait avec anxiété depuis un quart d'heure, lorsqu'un éclair lui montra une femme assise sur un rocher un peu au-dessus du chemin. Il s'arrêta, prêta l'oreille, et reconnut la voix de Lady Blake. Mais un homme était avec elle. Ce ne pouvait être que M. de Morangis. Lionel le maudit dans son âme, et, résolu au moins à troubler le bonheur de ce rival, il se dirigea, comme il put, vers le couple. Quelle fut sa joie en reconnaissant Henri auprès de sa cousine. Celui-ci, en bon et insouciant compagnon, lui céda la place et s'éloigna même pour garder les chevaux. Rien n'est si solennel et si beau que le bruit de l'orage dans les montagnes. La grande voix du tonnerre, en roulant sur des abîmes, se répète et retentit dans leur profondeur. Le vent qui fouette les longues forêts de sapins et les colle sur le roc perpendiculaire comme un vêtement sur des flancs humains, s'engouffre aussi dans les gorges et jette de grandes plaines aiguës et traînantes comme des sanglots. Lavinia, recueillie dans la contemplation de cet imposant spectacle, écoutait les mille bruits de la montagne ébranlée en attendant qu'un nouvel éclair jetât sa lumière bleue sur le paysage. Elle tressaillit lorsqu'il vint lui montrer sœur Lionel assis près d'elle, à la place qu'occupait son cousin un instant auparavant. Lionel pensa qu'elle était effrayée par l'orage, et il prit sa main pour la rassurer. Un autre éclair lui montra Lavinia à un coude appuyé sur un genou et le menton enfoncé dans sa main, regardant d'un air d'enthousiasme la grande scène des éléments bouleversés. « Oh, mon Dieu, que cela est beau !» lui dit-elle, « que cette clarté bleue est vive et douce à la fois. Avez-vous vu ces déchiquetures du rocher rayonner comme des saphirs, et ce lointain livide où les cimes des glaciers se levaient comme de grands spectres dans leurs linceuls ? Avez-vous remarqué aussi que dans le brusque passage des ténèbres à la lumière et de la lumière aux ténèbres, tout semblait se mouvoir, s'agiter, comme si ces monts s'ébranlaient pour s'écrouler ?»«
Je ne vois rien ici que vous, Lavinia, » lui dit-il avec force. « Je n'entends de voix que la vôtre. Je ne respire d'air que votre souffle. Je n'ai d'émotion qu'à vous sentir près de moi. Savez-vous bien que je vous aime éperdument ? Oui, vous le savez. Vous l'avez bien vu aujourd'hui, et peut-être vous l'avez voulu. Eh bien, triomphez, s'il en est ainsi. Je suis à vos pieds. Je vous demande le pardon et l'oubli du passé, le front dans la poussière. Je vous demande l'avenir. Oh, je vous le demande avec passion. Il faudra bien me l'accorder, Lavinia, car je vous veux fortement, et j'ai des droits sur vous. »
« Des droits ? » répondit-elle en lui retirant sa main. « Mais n'était-ce donc pas un droit, un affreux droit, que le mal dont je t'ai fait, Lavinia ? Et si tu me l'as laissé prendre pour briser la vie, veux-tu me l'ôter aujourd'hui que je veux les relever et réparer mes crimes ?
On sait tout ce qu'un homme peut dire en pareil cas.
Lionel fut plus éloquent que je ne saurais l'être à sa place. Il se monta singulièrement la tête et, désespérant de vaincre autrement la résistance de Lady Blake, voyant bien d'ailleurs qu'en restant au-dessous des soumissions de son rival, il lui faisait un avantage trop réel, il s'éleva au même dévouement. Il offrit son nom et sa fortune à Lady Lavinia. « Mais songez-vous, lui dit-elle avec émotion, vous renonceriez à Miss Ellis lorsqu'elle vous est promise, lorsque votre mariage est arrêté ?»«
Je le ferai, répondit-il. Je ferai une action que le monde trouvera insolente et coupable. Il faudra peut-être la laver dans mon sang, mais je suis prêt à tout pour vous obtenir, car le plus grand crime de ma vie, c'est de vous avoir méconnu. Et mon premier devoir, c'est de revenir à vous. Oh, parlez, Lavinia, rendez-moi le bonheur que j'ai perdu en vous perdant. Aujourd'hui, je saurai l'apprécier et le conserver, car moi aussi, j'ai changé. Je ne suis plus cet homme ambitieux et inquiet qu'un avenir inconnu torturait de ses menteuses promesses. Je sais la vie aujourd'hui, je sais ce que vaut le monde et son faux éclat. Je sais que pas un de mes triomphes n'a valu un seul de vos regards, et la chimère du bonheur que j'ai poursuivi m'a toujours fui jusqu'au jour où elle me ramène à vous. Oh, Lavinia, reviens à moi aussi. Qui t'aimera comme moi ? Qui verra comme moi ce qu'il y a de grandeur, de patience et de miséricorde dans ton âme ? Lavinia gardait le silence. Mais son cœur battait avec une violence dont s'apercevait Lionel. Sa main tremblait dans la sienne, et elle ne cherchait pas à la retirer, non plus qu'une tresse de ses cheveux que le vent avait détachée et que Lionel couvrait de baisers. Il ne sentait pas la pluie qui tombait en gouttes larges et rares. Le vent avait diminué, le ciel s'éclaircissait un peu, et le comte de Morangy venait à eux aussi vite que pouvait le lui permettre son cheval déféré et boiteux, qui avait failli le tuer en tombant contre un rocher. Lavinia l'aperçut enfin et s'arracha brusquement au transport de Lionel. Celui-ci, furieux de ce contretemps, mais plein d'espérance et d'amour, l'aida à se remettre à cheval et l'accompagna jusqu'à la porte de sa maison. Là, elle le lui dit en baissant la voix, « Lionel, vous m'avez fait des offres dont je sens tout le prix. Je n'y peux répondre sans y avoir mûrement réfléchi. Oh Dieu, mais c'est la même réponse qu'à Monsieur de Morangy. Non, non, ce n'est pas la même chose, répondit-elle d'une voix altérée. Mais votre présence ici peut faire naître bien des bruits ridicules. Si vous m'aimez vraiment, Lionel, vous allez me jurer de m'obéir.
Je le jure par Dieu et par vous.
Eh bien, partez sur le champ et retournez à Bagnères. Je vous jure à mon tour que dans 40 heures vous aurez ma réponse.
Mais que deviendrai-je, grand Dieu, pendant ce siècle d'attente ?
Vous espérerez, lui dit Lavinia, en refermant précipitamment la porte sur elle, comme si elle eût craint d'en dire trop. Lionel espéra en effet. Il avait pour motif une parole de Lavinia et tous les arguments de son amour-propre.
« Vous avez tort d'abandonner la partie, lui disait Henri en chemin. Lavinia commençait à s'attendrir. Sur ma parole, je vous reconnais pas là, Lionel. Quand ce n'eût été que pour ne pas laisser Morangy mettre du champ de bataille. Alors, vous êtes plus amoureux de Mycélis que je ne le pensais.
Lionel était trop préoccupé pour l'écouter. Il passa le temps que Lavinia lui avait livré, fixé, enfermé dans sa chambre. Il se fit passer pour malade et ne daigna pas désabuser Sir Henry, qui se perdait en commentaires sur sa conduite. Enfin, la lettre arriva. La voici. Ni l'un ni l'autre. Quand vous recevrez cette lettre, quand M. de Morangy, que j'ai envoyé à Tarbes, recevra ma réponse, je serai loin de vous deux. Je serai parti à tout jamais, perdu sans retour pour vous et pour lui. Vous m'offrez un nom, un rang, une fortune. Vous croyez qu'un grand éclat dans le monde est une grande séduction pour une femme? Oh non! Pas pour celle qui le connaît et le méprise comme je le fais. Mais pourtant, ne croyez pas, Lionel, que je dédaigne l'offre que vous m'avez faite de sacrifier un mariage brillant et de vous enchaîner à moi pour toujours. Vous avez compris ce qu'il y a de cruel pour l'amour-propre d'une femme à être abandonnée, ce qu'il y a de glorieux à ramener à ses pieds un infidèle, et vous avez voulu me dédommager par ce triomphe de tout ce que j'ai souffert. Aussi, je vous rends toute mon estime et je vous pardonnerai le passé si cela n'était pas fait depuis longtemps. Mais sachez, Lionel, qu'il n'est pas en votre pouvoir de réparer ce mal. Non, cela n'est au pouvoir d'aucun homme. Le coup que j'ai reçu est mortel. Il a tué pour jamais en moi la puissance d'aimer. Il a éteint le flambeau des illusions, et la vie m'apparaît sous son jour terne et misérable. Eh bien, je ne me plains pas de ma destinée. Cela devait arriver tôt ou tard. Nous vivons tous pour vieillir et pour voir les déceptions envahir chacune de nos joies. J'ai été désabusé un peu jeune, il est vrai. Et le besoin d'aimer a longtemps survécu à la faculté de croire. J'ai souvent lutté contre ma jeunesse comme contre un ennemi acharné. J'ai toujours réussi à la vaincre. Et croyez-vous que cette dernière lutte contre vous, cette résistance aux promesses que vous me faites, ne soit pas bien cruelle et bien difficile? Je peux le dire à présent que la fuite me met à l'abri du danger de succomber. Je vous aime encore, je le sens. L'empreinte du premier objet qu'on a aimé ne s'efface jamais entièrement. Elle semble évanouie. On s'endort dans l'oubli des maux qu'on a souffert. Mais que l'image du passé se lève, que l'ancienne idole reparaisse, et nous sommes encore prêts à plier le genou devant elle. Oh, fuyez, fuyez, fantômes et mensonges. Vous n'êtes qu'une ombre. Et si je me hasardais à vous suivre, vous me conduiriez encore parmi les écueils pour m'y laisser mourante et brisée. Fuyez, je ne crois plus en vous. Je sais que vous ne disposez pas de l'avenir, et que si votre bouche est sincère aujourd'hui, la fragilité de votre cœur vous forcera de mentir demain. Et pourquoi vous accuserais-je d'être ainsi? Ne sommes-nous pas tous faibles et mobiles? Moi-même, n'étais-je pas calme et froide quand je vous ai abordé hier? N'étais-je pas convaincu que je ne pouvais pas vous aimer? N'avais-je pas encouragé les prétentions du comte de Morangy? Et pourtant, le soir, quand vous étiez assis près de moi sur ce rocher, quand vous me parliez d'une voix si passionnée au milieu du vent et de l'orage, n'ai-je pas senti mon âme se fondre et s'amollir? Oh, quand j'y songe, c'était votre voix des temps passés, c'était votre passion des anciens jours, c'était vous, c'était mon premier amour, c'était ma jeunesse que je retrouvais tout à la fois. Et puis à présent que je suis de sang-froid, je me sens triste jusqu'à la mort, car je m'éveille et me souviens d'avoir fait un beau rêve au milieu d'une triste vie. Adieu, Lionel. En supposant que votre désir de m'épouser fût soutenu jusqu'au moment de se réaliser, et à l'heure qu'il est, peut-être, vous sentez déjà que je puisse avoir raison de vous refuser, vous eussiez été malheureux sous l'étreinte d'un lieu pareil. Vous auriez vu le monde, toujours ingrat et avare, de louanges devant nos bonnes actions, considérer la vôtre comme l'accomplissement d'un devoir, et vous refusez le triomphe que vous en attendiez, peut-être. Puis vous auriez perdu le contentement de vous-même en n'obtenant pas l'admiration sur laquelle vous comptiez. Qui sait? J'aurais peut-être moi-même oublié trop vite ce qu'il y avait de beau dans votre retour et accepté votre amour nouveau comme une réparation due à votre honneur. Oh, ne gâtons pas cette heure d'élan et de confiance que nous avons goûtée ce soir. Gardons-en le souvenir, mais ne cherchons pas à la retrouver. N'ayez aucune crainte d'amour-propre en ce qui concerne le comte de Morangy. Je ne l'ai jamais aimé. Il est un des mille impuissants qui n'ont pu, moi aidant, hélas, faire palpiter mon cœur éteint. Je ne voudrais pas même de lui pour époux. Un homme de son rang vend toujours trop cher la protection qu'il accorde en la faisant sentir. Et puis, je hais le mariage. Je hais tous les hommes. Je hais les engagements éternels, les promesses, les projets, l'avenir arrangé à l'avance par des contrats et des marchés dont le destin se rit toujours. Je n'aime plus que les voyages, la rêverie, la solitude, le bruit du monde, pour le traverser et en rire, puis la poésie pour supporter le passé, et Dieu pour espérer l'avenir. Sir Lionel Bridgemond éprouva d'abord une grande mortification d'amour-propre, car il faut le dire pour consoler le lecteur qui s'intéresserait trop à lui, Depuis 40 heures, il avait fait bien des réflexions. D'abord, il songea à monter à cheval, à suivre Lady Blake, à vaincre sa résistance, à triompher de sa foi de raison. Et puis, il songea qu'elle pourrait bien persister dans son refus et que pendant ce temps, Miss Ellis pourrait bien s'offenser de sa conduite et repousser son alliance. Il resta. « Allons !» lui dit Henry le lendemain, en le voyant baiser la main de Miss Margaret, qui lui accordait cette marque de pardon après une querelle assez vive sur son absence. « L'année prochaine, nous siégerons au Parlement. » Fin de Lavinia.